L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public, pour cette nouvelle émission thématique consacrée à l'Amérique latine et au cours de laquelle, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Béatrice Gibelin, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote, et avec Nicole Niesoto, professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au CNAM, nous recevons, pour parler donc de l'Amérique latine, nous recevons Alain Rouquier. Alain Rouquier, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'Amérique latine, où vous avez occupé plusieurs postes diplomatiques, notamment celui d'ambassadeur au Mexique et au Brésil. Vous êtes directeur de recherche émérite aux séries Sciences Po et président de la Maison de l'Amérique latine. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages de référence, entre autres l'Introduction à l'extrême Occident, publiée en 1987, Guerre et paix en Amérique centrale en 92, ou encore Le Brésil au XXIe siècle, naissance d'un nouveau grand, paru en 2006. Avec vous, nous allons donc nous intéresser à ce sous-continent. La chute des dictatures et des régimes militaires en Amérique du Sud à partir des années 80 a engendré l'établissement de démocraties progressistes dans de nombreux pays. En 1999, Hugo Chavez, qui se réclame de Simon Bolivar et entend instaurer le socialisme du XXIe siècle au Venezuela, devient président par la voie des urnes. De nombreuses transformations politiques s'ensuivent dans la région. Avec l'élection de Luis Ignacio Lula da Silva au Brésil en 2002, de Néstor Kirchner en Argentine en 2003, alors que le pays subit une grave crise financière, d'Evo Morales en Bolivie en 2005, ou encore de Michel Bachelet au Chili en 2006. Ces nouveaux leaders rompent avec les politiques néolibérales de leurs prédécesseurs et mettent en place des réformes progressistes entre nationalisation, programmes sociaux, investissements dans l'éducation et volonté de réduire la pauvreté en s'adressant aux franges les plus marginalisées de la population. Entre 2002 et 2014, la pauvreté recule d'environ 44 à 28% sur une grande partie du sous-continent et de nombreux pays connaissent une forte expansion de leur classe moyenne. Si ces démocraties ont largement contribué aux avancées sociales et économiques de leur pays au cours de la première décennie du XXIe siècle, certaines connaissent par la suite un reflux démocratique, voire des dérives autoritaires. Depuis 2015, l'Amérique latine fait face à un nouveau tournant, avec une recomposition du paysage politique au détriment des gauches. L'opposition vénézuélienne a remporté les élections législatives de décembre 2015. La présidente brésilienne Dilma Rousseff a été destituée en août 2016, après l'implication de son parti dans l'affaire de corruption dite Petrobras. Le péronisme argentin a été battu en novembre 2015 par un candidat de centre-droit, Mauricio Macri, qui, après avoir dénoncé la corruption du gouvernement de Cristina Kirchner est désormais empêtrée dans des affaires de trafic d'influence, comme dans le scandale des Panama Papers. Le tournant politique que traverse l'Amérique latine va de pair avec la crise économique qui touche certains pays, en particulier l'Équateur, le Venezuela, l'Argentine et le Brésil. Entre 2003 et 2012, la région a connu une période de prospérité économique importante due en particulier au supercycle de hausse des prix des matières premières, encouragé par la demande asiatique et chinoise. Mais justement, selon vous, ce qui fait le malheur de l'Amérique latine, c'est sa richesse, car la dépendance des pays producteurs aux exportations et à la volatilité des cours internationaux l'ont rendu prisonnière de ses ressources. La chute du prix du pétrole explique en partie la crise que connaît le Venezuela aujourd'hui, crise liée à une inflation et une récession considérables. L'Argentine et le Brésil connaissent des situations similaires, alors que ce dernier, membre des fameux BRICS et plus grande puissance d'Amérique du Sud, a enregistré ces dernières années un recul de 7% de son produit intérieur brut. Cette période de récession contraste évidemment avec la croissance de certains pays tels que la Bolivie, Cuba ou encore le Pérou. La stabilité économique du Mexique est quant à elle incertaine depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump qui a entamé la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain et entend augmenter les droits de douane. Signataire de l'ALENA depuis 1993, le Mexique destine environ un tiers de ses exportations à son voisin du Nord et face aux velléités isolationniste des États-Unis, la Chine a quant à elle exprimé sa volonté de consolider sa présence en Amérique du Sud. Alain Rouquier, la tradition de cette émission veut que je pose à notre invité un bouquet de questions dont il retient ce qu'il veut, voire rien du tout. Et j'en ai à la fois sur le Brésil, est-ce qu'il a perdu sa légitimité au sein des BRICS, sur le Mercosur, quel est encore son poids, sur l'Argentine, est-ce qu'elle reprend le chemin de la croissance, est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle victoire du péronisme en octobre 2017. Mais si vous le voulez bien, comme vous vous êtes intéressé un peu plus particulièrement à l'Argentine, je commencerai ma première question, que vous êtes libre de contourner, en vous demandant, vous avez publié Le siècle de Perón, essai sur la démocratie hégémonique, je le disais tout à l'heure, et c'est un ouvrage dans lequel vous vous intéressez aux caractéristiques de ce pouvoir hégémonique, qui est donc né avec l'élection de Juan Perón en 1946, et qui est réapparu progressivement, et pas seulement d'ailleurs en Argentine. Est-ce que vous pourriez nous proposer une définition, une explication? Je crois que Dieu le Père lui-même, probablement, il perdrait son latin, mais en tout cas, une définition de ce péronisme auquel vous vous êtes intéressé.
Alors, il y a le péronisme dans l'histoire, c'est Perón, c'est sept présidences qui se sont réclamées de Perón en Argentine, et c'est un mouvement qui, 70 ans après la naissance de ce qu'on a appelé le péronisme, existe toujours. On se réclame toujours de Perón et d'Eva Perón. Et les slogans qui apparaissent dans les élections et même entre les élections, notamment dans les syndicats qui sont toujours dominés par le péronisme en Argentine, c'est « Perón vive, vie, Perón revient ». Alors il y a tout un côté de négrophilie dans le péronisme que je laisserai de côté, c'est pas ceux qui nous intéressent. Mais le propre de le modèle péroniste, puisqu'on va parler des autres pays où on retrouve à peu près le même type de régime, le même dispositif de pouvoir. Ce sont des régimes qui arrivent au pouvoir par des élections et qui peu à peu rognent les institutions, les contre-pouvoirs et deviennent hégémoniques. Perón, c'est évident. Les péronismes les plus récents, même le péronisme de Madame Kirchner, n'est pas allé jusqu'à établir une quasi-dictature. Mais il y a eu un certain nombre de réformes qui visaient à contrôler la justice, à la politiser, à contrôler les médias et à faire que le péronisme soit au pouvoir le plus longtemps possible. Je n'irai rien de des dispositifs familiaux qui faisaient que la femme succédait au mari. Ça, c'est typiquement péroniste aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a de propre au modèle péroniste qu'on peut trouver ailleurs? Il y a d'abord l'arrivée au pouvoir par des élections. Il y a ensuite une politique sociale avancée, progressiste, populaire. Et il y a la volonté de prendre le pouvoir au nom de la majorité et de cesser de respecter la séparation des pouvoirs. On trouve ça chez Perón, on trouve ça notamment avec Chavez, et maintenant avec sa caricature en quelque sorte, qui est Maduro. Car ces régimes sont des régimes plébiscitaires. Ce sont des régimes qui dépendent du peuple, qui ont l'onction populaire et qui la répètent, qui s'y réfèrent le plus souvent possible. Vous savez que Chavez a fait à peu près, entre 1999 et 2013, l'année de sa mort, une élection par an. Or, que voit-on aujourd'hui au Venezuela ? Maduro non seulement refuse le résultat des élections qui n'y ont pas été favorables pour l'Assemblée législative de 2015, et même ignore l'Assemblée législative, il refuse une partie importante de la constitution de Chavez, qui était le référendum révocatoire, puisqu'il ne veut pas être révoqué, dans la mesure où il n'est plus populaire, et propose une constituante qui ne serait pas élue, qui serait organisée par des associations qui dépendent du gouvernement. Donc on est sorti de ce que j'appelais le modèle péroniste, le modèle de démocratie hégémonique, pour entrer dans un modèle qui est celui de l'autoritarisme classique. Voilà pour le Venezuela, le péronisme.
Je vous remercie de cette définition du péronisme. Pendant que vous nous la donniez, je me demandais si elle ne s'appliquerait pas à Donald Trump.
Mais Erdogan.
Erdogan.
Et à Poutine.
qu'elle s'applique à tout ça. Je n'ai pas parlé de Trump dans mon livre parce qu'il a paru avant, mais j'ai parlé d'Erdogan et de Poutine aussi, bien sûr. Bien sûr.
Dans cette émission, le Perron, c'est moi, par conséquent. Un peu d'ordre. Nicole Lesotho.
Oui, moi j'avais peut-être envie de vous poser justement une question un peu plus générale sur le continent. Parce qu'on a quand même l'impression que c'est l'histoire d'un échec sans arrêt renouvelé. Alors, tout le monde connaît la formule qu'on attribue, je crois, à Clémenceau sur le Brésil, un pays d'avenir et qui le restera longtemps. Mais on a l'impression que cette formule s'applique à l'ensemble du continent sud-américain. Parce que, et Philippe l'a dit dans son introduction, on a eu une décennie au début du XXe siècle qui a été une décennie formidable en termes de prospérité économique, en termes de consolidation de la démocratie, même en termes d'innovation diplomatique. On se souvient que le Brésil, Lula, avait été avec la Turquie d'Erdogan déjà à l'initiative d'initiatives diplomatiques sur l'Iran notamment. Donc on a l'impression d'une décennie formidable où la pauvreté recule. Et puis tout d'un coup, patatras, depuis 5 ou 6 ans, de nouveau, le cycle de la corruption, le cycle de la crise de la démocratie, le cycle de l'autoritarisme dans beaucoup, beaucoup de pays sud-américains. Et donc la question est, mais est-ce qu'il y a comme ça une espèce de malédiction sur ce continent qui n'arrive pas à s'installer dans la mondialisation de façon durable et à trouver une expression politique dans le monde qui serait à la fois spécifique mais efficace ?
Alors, ok. Oui, la malédiction, on l'a dit, j'en ai parlé aussi, vous le citiez tout à l'heure, ces pays sont trop riches, je parle des pays d'Amérique du Sud, car il y a deux Amériques. Je dirais, pour simplifier, il y a une Amérique qui dépend des États-Unis et l'autre qui dépend de la Chine. L'Amérique du Sud, les matières premières, donc la grande époque a été 2003-2013, avec le boom, le super chic des matières premières, qui, vous avez raison, ont été mal utilisées. Si on prend pays par pays, et notamment le pays le plus monoproducteur qui est le Venezuela, il y a un slogan au Venezuela depuis 1948, depuis l'arrivée de la démocratie, c'était « il faut semer le pétrole ». Or, on l'a fort mal semé. On a fait du court terme, on a redistribué pour gagner les élections et pour avoir une grande popularité à partir de 1999. Et rien n'a été fait en matière de réserve en cas de coup dur. Il n'y a pas eu de moyens, comme aujourd'hui quand le pétrole est à 50 au lieu de 120 dollars par baril, pour faire des politiques contracycliques. À la différence de la Norvège, qui a un fonds d'urgence pour les variations du cours du pétrole, rien de cela n'a été fait. On a fait du court terme, mais alors vraiment du très court terme, c'est-à-dire de la redistribution, puisque dans cette redistribution, on n'a même pas pensé au Venezuela, qu'il fallait construire des logements, refaire des routes, etc. Bon. Et ça, c'est évident que ça fait partie, je dirais, des dérives, un peu des dérives de la démocratie. Vous avez de l'argent et donc vous en profitez pour rester au pouvoir le plus longtemps possible. Et ces régimes, qui sont des régimes plébiscitaires, évidemment, utilisent tous les moyens qui sont à leur disposition. Il y a d'autres éléments dont il faut tenir compte dans l'histoire. Je pense au Brésil en particulier. Le Brésil n'est pas un pays plus corrompu que les autres. Le pays a un héritage lourd et a une constitution corruptrice. En deux mots, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Brésil a eu un régime militaire pendant 21 ans. Ce régime militaire avait un semblant de parlementarisme, était complètement centralisé, le fédéralisme avait disparu. Quand en 88, on a fait une nouvelle constitution, on a fait une constitution aux antipodes de tout ce qui avait été fait par les gouvernements militaires successifs depuis 1964. C'est-à-dire qu'on a, d'une part, fait une constitution très décentralisatrice, une constitution qui était parlementariste. On a hésité très longtemps entre le parlementarisme et le présidentialisme. C'est en 93 qu'il y a eu un référendum là-dessus. Mais cette constitution reste une constitution parlementariste qui permet, par exemple, de destituer le président ou la présidente, en l'occurrence, comme si c'était un premier ministre avec lequel on est en désaccord sur un point mineur, car elle a été destituée sur un point mineur, il faut bien reconnaître, hein, sur une présentation budgétaire. Elle n'est pas corrompue. On n'a jamais trouvé que Dilma Rousseff ait reçu de l'argent comme d'autres. Bon, alors qu'est-ce qu'on a dans cette constitution aussi ? Il y a une loi électorale qui est totalement aberrante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plafond pour les dépenses et de plancher pour minimum de pourcentage de voix pour entrer au Congrès. Donc on a 30 partis. On a les circonscriptions qui sont les États, qui sont énormes. Et quand vous avez, pour le Sénat, un homme qui se présente dans un État comme le Minas Gerais ou comme l'État de São Paulo, l'État de São Paulo, c'est l'Argentine, le PIB de l'Argentine. Vous voyez un peu les dépenses que ça... Bon, à partir de là, la corruption est, je dirais presque, inscrite dans la Constitution. Alors, comment changer cela ? Eh bien, c'est le Congrès qui peut changer. Mais le Congrès, ben, ils en profitent. J'en ai parlé, excusez-moi... Citer des anecdotes, j'en ai parlé à deux présidents successifs, Fernando Henrique Cardoso et Lula. Et ils m'ont dit, mais mon pauvre Dieu, bien sûr qu'il faut changer la loi électorale et qu'il faut modifier la Constitution, mais ça, c'est la compétence du Congrès, donc on ne peut pas le faire. Vous voyez, c'est quand même des situations, et ces héritages des dictatures, on les retrouve un peu dans tous les pays. On retrouve au Chili l'héritage de Pinochet, il n'a pas été digéré, il est encore là. En matière économique, on est toujours dans la logique d'un État réduit, un marché plus libéré que dans les pays voisins, et avec des difficultés comme celles que connaît Mme Bachelet aujourd'hui.
Tout à fait passionnant ce que vous expliquez sur l'importance en fait des constitutions, l'idée de la constitution corruptrice et du système qui le favorise. Mais quand on voit les mouvements des manifestations qui ont été très très importantes au Brésil, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un niveau, j'allais dire, de conscience politique. On est quand même dans des pays pour lesquels on a, pour ainsi dire, plus d'analphabètes, en allant un peu vite, mais quand même, par rapport à ce qu'on peut connaître sous d'autres continents, bien évidemment, je pense à l'Afrique, c'est tout à fait étonnant. Est-ce que quand Lula vous dit, bah, mon pauvre vieux, c'est pas possible, c'est le Congrès, on va pas y arriver, est-ce qu'il n'y a pas une pression de la part de l'opinion publique qui pourrait s'exercer et qui pourrait donner la main pour dire, bon, bah voilà, il y a une demande forte de la part du peuple brésilien, il faut qu'on revienne là-dessus avec l'aide des médias. Les médias ne sont pas contrôlés dans le Brésil. On peut quand même dire beaucoup de choses et s'exprimer. Est-ce qu'il n'y a pas là une autre forme de démocratie qui pourrait s'exercer ?
À quand écoutez, En Marche du Brésil ?
Oui, écoutez, d'une certaine façon.
Écoutez, à mon avis, l'opinion publique voit les symptômes, elle ne voit pas les causes. C'est général, c'est pas uniquement au Brésil. Et l'opinion publique, ceux qui manifestent contre la corruption, parce qu'elle est évidente. Et il faut dire que cette corruption est d'autant plus évidente que c'est les gouvernements du Parti des Travailleurs, celui de Lula et Dilma, qui ont promulgué des lois permettant de lutter contre la corruption. Par exemple, la loi qui est inspiré des États-Unis de plea bargain, qui permet de réduire la peine en dénonçant, eh bien, ça permet de dénoncer un peu tout le monde. Ça, c'est Dilma qui l'a introduite. Et Dilma a évincé 3 ou 4 de ses ministres qui n'avaient pas les mains propres. Et donc, vous voyez, c'est un peu compliqué maintenant que toute la presse dit « Ah oui, mais c'est le Parti des Travailleurs qui était corrompu, etc. » En fait, c'est le parti qui est corrompu essentiellement, c'est le PMDB, le parti de M. Temer. Et M. Temer est en difficulté aujourd'hui.
Sérieuse.
Après avoir fait destituer Dilma Rousseff, dont il était en principe solidaire, puisqu'il avait été élu sur le même ticket. Donc, vous voyez, les situations qui sont difficiles. Les manifestations, c'est contre la corruption, mais c'est aussi face à une situation économique qui n'est pas bonne. On a, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, 12 millions de chômeurs qui s'ajoutent au secteur informel, qui est quand même au niveau de 30 ou 35%. D'ailleurs, le secteur informel est très, très élevé dans tous les pays d'Amérique latine, et il est D'autant plus dans l'Amérique du Sud que on n'exporte plus autant et que le boom des matières premières est fini. On parlait tout à l'heure de tous ceux qui sont devenus classe moyenne, mais ils avaient juste la tête hors de l'eau. Et sur la base d'emplois souvent précaires et d'emprunts bancaires. Au Brésil, c'était extraordinaire parce que vous pouviez acheter un voyage, des meubles, etc. Et il y avait un système qui de prélèvement par les banques sur votre salaire, directement. Donc, celui qui perd son emploi, il se trouve dans une situation terrible. Donc, tous ces gens-là sont descendus dans la rue, pensant que c'était les corrompus qui avaient provoqué ça. La crise économique, c'est pas les corrompus, c'est que le cycle a changé aussi.
François Bujon de l'État.
C'est quand même très, très étrange, cette spécificité latino-américaine, finalement. Le mal gobierno, comme on l'appelle en Argentine, n'est-ce pas? Le mauvais gouvernement ou la mauvaise gouvernance, je ne sais pas comment il faut bien traduire. Est-ce qu'il y a vraiment dans l'Amérique latine? Alors, j'ai deux questions. La première, est-ce qu'il y a une fatalité de la mauvaise gouvernance? Pourquoi est-ce que toutes ces magnifiques histoires à succès qu'étaient le Brésil, l'Argentine ou le Venezuela et son pétrole, qui a les premières réserves du monde, se termine-t-elle dans le désastre? Comment se fait-il? Est-ce une fatalité? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des success stories qui continuent? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des espoirs? Est-ce que la Colombie, par exemple, qui sort de ces années de tragédie, de guerre civile, de rébellion agraire, et qui semble se diriger vers une réconciliation nationale, pourrait en être une? Et la deuxième question qui vient après celle-ci, et sur la généralisation que l'on fait. On parle de l'Amérique latine, ou même de l'Amérique du Sud, puisque vous avez raison, il y en a bien deux en effet, comme d'une entité. Mais au fond, il y a de tels particularismes dans ces pays que les généralisations sont très difficiles. Alors il y en a quand même qui sont faites. Par exemple, on dit que l'ère des dictatures militaires est terminée. On dit que les populismes, d'une façon générale, ont ruiné les pays dans lesquels ils ont conquis le pouvoir. Il y a un certain nombre de généralisations comme celle-là. Sont-ils justifiés ou est-ce que vraiment il y a des Amériques latines et non pas une Amérique latine ou même une Amérique du Sud?
Non, raison, il n'y a pas d'Amérique latine, il y a des Amériques latines, c'est un terme géographique et culturel. Ça n'a rien à voir avec la politique, avec le destin de chacun de ces pays. Et il n'y a pas de fatalisme non plus. L'Uruguay se porte bien avec des voisins malades, très malades,
oui.
Les deux voisins les plus malades, le Brésil et l'Argentine. C'est ceux qui provoquent dans les comptes de l'ensemble de l'Amérique latine une récession globale. Hein, parce que sinon, vous avez un certain nombre de pays qui, comme on l'avait dit tout à l'heure, qui sont en bonne santé. La Colombie aura 2,7% de croissance cette année. La Bolivie, on dit, ils ont ruiné ces populismes, entre guillemets, vous appellerez, bon, ces démocraties hégémoniques ou ces pays bolivariens.
Oui,
mais la Bolivie se porte bien. La Bolivie se porte bien, Evo Morales se porte moins bien, parce qu'on ne lui a pas permis de se faire réélire, mais la Bolivie se porte bien. Et il y a donc un certain nombre de pays. Et on dit, c'est fini le cycle de la gauche bolivarienne. Ben oui, mais Correa, en Équateur, a réussi à faire élire son successeur, qui s'appelle Lénine, et qui a fait campagne en chaise roulante parce qu'il a été victime d'un accident. Donc c'est pas aussi clair que ça. Il n'y a pas un cycle qui finit, un cycle qui commence. Alors il y a eu des élections qui ont permis à Macri, par exemple, de succéder à une péroniste qui, enfin, 12 ans de péronisme qui n'est rien à la même famille, c'était quand même beaucoup, même pour l'Argentine. Même pour l'Argentine. Alors la Colombie, bien la Colombie, vous savez, c'est une c'est là qu'on voit la spécificité des pays d'Amérique latine. C'est unique. La Colombie était en démocratie quand tous les autres pays étaient en dictature. Dans les années 70-80, il y avait trois pays qui étaient en démocratie. Je laisse le Mexique de côté, qui est un cas particulier quand même. Vous aviez le Costa Rica, le Venezuela et la Colombie. Mais depuis 1945, il y avait une guerre interne. Une guerre intestine qui pourrait se terminer maintenant si les accords avec les FARC tiennent et si le LN, qui n'est pas encore entré dans ces accords, l'accepte. Mais la Colombie était stable, avec une économie qui fonctionnait bien. Bon, certains bons esprits colombiens, mes amis, disent oui, mais c'est justement parce qu'il y avait cette guerre interne qui permettait de donner de la cohésion à la classe politique, une classe politique très réduite. Vous savez qu'on disait que Bogota était l'Athènes de l'Amérique latine parce qu'on y parlait en espagnol, etc. Oui, mais la démocratie était une démocratie athénienne. Une démocratie restreinte, avec des grandes familles, comme la famille Santos en ce moment d'ailleurs, comme la famille Restrepo, comme quelques autres, qui se sont toujours partagé le pouvoir. Et, bon, il y avait la violence de l'autre côté. Alors cette violence, c'était une violence qui permettait de transférer, de concentrer la propriété, de tenir les pauvres des campagnes un peu à l'écart des villes, et c'est dans les villes qu'on faisait la politique. Donc, cette Colombie qui est riche, qui est compliqué, parce que c'est un pays très compartimenté, parce qu'une géographie très complexe, avec ses deux barrières, ses deux murailles de montagne, et ses deux côtes. Et la Colombie n'a pas connu dans les dictatures, a connu une stabilité, et certains se demandent si maintenant, au moment où les guérillas disparaissent, guérillas qui assuraient le rôle de l'État dans les zones où l'État est absent, car l'État de Colombie est faible. La première fois que je suis allé en Colombie, je travaillais sur l'État, et quelqu'un m'a dit, mais pourquoi travailler sur l'État? Ça n'existe pas. Vous allez voir, la Fédération des planteurs de café, c'est eux. Alors maintenant, c'est fini, parce qu'il y a quand même une très grande diversification de l'économie. Mais il y a des zones où l'État est absent. Et dans ces zones où l'État est absent, il y a des guérillas, il y a des contre-guérillas, il y a des délinquants, il y a des narcotrafiquants, etc. Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans ces zones quand les FARC seront partis, ont laissé les armes? Est-ce que l'État est capable? Et cette armée qui était privilégiée, qui avait des primes de campagne, etc., qui ne bougeait pas, justement, parce qu'ils étaient très contents. Maintenant qu'ils seront en paix, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui se passe au Venezuela, puisque vous parliez des militaires? Au Venezuela, qu'est-ce qui gouverne? Est-ce que c'est M. Maduro qui gouverne? Ou est-ce que c'est déjà l'armée?
C'est une armée qui a été choyée par Chavez.
Bien sûr, elle a été choyée par Chavez, puis il était militaire, il était lieutenant-colonel. Elle a été choyée, mais surtout, il la tenait en main. Maduro, c'est plutôt le contraire. C'est qu'il a besoin des militaires, qu'il utilise même maintenant pour l'ordre public, ce qui est extrêmement dangereux, et il leur a donné des pans entiers de l'économie à contrôler et à mettre en œuvre. Donc, c'est pas... Bon, je crois que le temps des militaires est fini parce qu'il n'y a plus la lutte contre le communisme qui était l'argument principal avec la bénédiction de Washington. Ça, c'est fini. Et la démocratie, donc, le système normal, y compris, je ne pense pas que M. Trump souhaite que la démocratie soit remise en question ou que ce soit. Même... je crois qu'ils seraient très très gênés. Les États-Unis seraient très gênés s'il y avait un coup d'État demain au Venezuela. Ce qu'ils veulent, c'est la stabilité et la démocratie, c'est sûr. Mais les armées sont toujours là.
Si je peux revenir en arrière, François a évoqué l'idée du mal gouvernement, cette espèce de malédiction qui sert à expliquer ou à désigner la situation selon les périodes, pas tout le temps, mais de tel ou tel pays d'Amérique latine, et notamment de l'Argentine. Je vous ai demandé tout à l'heure votre définition du péronisme. J'aimerais que vous nous disiez comment vous expliquez qu'un pays comme l'Argentine, au sortir de la guerre, parce que là, pour le coup, il n'y a pas de problème de matières premières, là, il n'y a pas de problème de pauvreté. Là, le pays sort, il a fourni en plus, et il continuera à fournir en viande toute l'Europe pendant les années qui suivent. Il est dans un état, une puissance économique mondiale très importante, et de cette puissance économique mondiale, de cette aisance, sort ce personnage totalement régressif, extravagant, hystérique, qu'est le colonel Perón et Eva Perón, dont j'ai pu voir par la suite les petits restes quand la veuve, la deuxième femme de Perón, Isabelita, a été portée au pouvoir après que Perón lui-même soit mort, etc., etc. Enfin, après avoir fait élire son dentiste à sa place et après ensuite s'être fait élire lui-même. Et j'ai vu ça, je me souviendrai, je crois, toute ma vie, d'une conversation avec le doyen de la faculté de lettres de Buenos Aires, spécialiste de Rainer Maria Rilke, et d'une conversation d'un niveau littéraire, de sa part en tout cas, extrêmement élevé. Et quand on a eu fini, il m'a dit, au bout d'un moment, il m'a dit, excusez-moi, je ne peux pas continuer à parler avec vous, je vais à la messe pour Evita Perón, Voulez-vous venir avec moi ? Bien entendu, j'y suis allé. Il y avait le confesseur d'Eva Perón, qui était dans un état de gâtisme avancé. On lui tenait les bras pour qu'il puisse dire la messe à peu près conformément à la liturgie. Il disait la messe sur un drapeau argentin. Et il y avait en face de moi la Juventud Peronista, dont ce professeur, ce doyen, était un des leaders, et qui, toutes les deux minutes, criait « Evita presente, evita presente, evita presente ». C'est-à-dire l'impression, tout à coup, de sombrer dans une espèce d'irrationalité ridicule par-dessus le marché. D'où sort cette transformation de l'Argentine, pays riche et tenu, en ce guignol?
Bien, je crois qu'il faut remonter, remonter très haut pour expliquer, il faut remonter aux années 40. À partir des années 30, bon, il y a eu un coup d'État contre ce qui était le gouvernement des classes moyennes, assez social, assez ouvert, qui étaient les radicaux, qui étaient en train de transformer l'Argentine en une démocratie, avec ceci d'un peu compliqué et qui était un peu une imitation de la démocratie, c'est que les classes moyennes avaient leur parti, enfin les moyennes, disons, progressistes, les radicaux, c'est un peu comme les radicaux chez nous, hein, et que les conservateurs n'avaient pas de parti. Les conservateurs, c'était notable, ils n'avaient jamais réussi à faire un parti. Dont le parti des conservateurs et des notables, ça a été l'armée, qui a pris le pouvoir en 1930, et puis qui l'a redonné aux conservateurs dans une démocratie restreinte, qui, jusque dans les années 40, pouvait être acceptable, et encore. Mais à partir du moment où la guerre offre une protection aux industries nationales, ne pouvait plus fonctionner. Pourquoi ? Parce que la guerre a désarticulé les courants commerciaux, il n'y avait plus d'importation, et on finit par tout produire, tous les biens de première nécessité industrielle, à l'intérieur du pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'industrie a besoin de main-d'œuvre. Ça veut dire qu'il y a un prolétariat, comme on disait à l'époque, qui se crée, à partir de l'exode rural, très très fort. Dans ce pays d'immigration, il n'y a plus d'immigrants. Et pour cause, puisque la guerre ne permet plus l'immigration. Et donc l'immigration vers les villes, vers les zones industrielles du Rio de la Plata, ça vient des campagnes. Dans les campagnes, ce ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas aussi blancs. Hein, ce sont des populations métissées, hein, qu'on appelle là-bas negro, negrito, ce qu'on veut. Et on utilise encore ce mot pour distinguer les blancs et les noirs qui ne sont pas noirs, mais enfin, ils ont du sang indien. Bon. Et toutes ces nouvelles populations sont totalement à l'écart et de la vie politique et de la vie sociale. Et bénéficient très très peu de la prospérité de l'après-guerre. Et c'est là que Perón et ses amis disent « Mais qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des socialistes, des communistes. S'il y a des élections, ils prennent le pouvoir, on n'en veut pas, parce que Perón avait été en Espagne après la victoire de Franco. Et les syndicats vont se former, qui vont être des syndicats révolutionnaires, on n'en veut pas non plus. Donc, il faut préempter tout ça en faisant des syndicats qui pensent bien et des lois sociales. L'État-providence, c'est Perón qui l'a créé avant même d'arriver au pouvoir, en 46, quand il se fait élire. Est-ce qu'il a fait ça parce qu'il était socialiste, socialisant ? Non, il était moussolinien. J'ai interviewé Perón, il m'a fait un éloge de Mussolini extraordinaire. Il admirait beaucoup. Mussolini disait, c'est l'homme qui a résolu en Europe la question sociale. Bon, c'est pas mal. Et il a pensé qu'il y aurait, il l'a dit, il a répété, qu'il y aurait une explosion sociale après la guerre. À la fin de la guerre, il y aurait une explosion sociale, et ça, il y aurait un Front Populaire, ce serait comme en Espagne, les communistes, les socialistes, etc. Donc il a dit, il faut faire quelque chose, on met la main sur les syndicats, et on fait des lois sociales progressistes. Et c'est à partir de là que le péronisme est né. Le péronisme a été une identité à la fois nationaliste et sociale, où se sont reconnues des majorités qui, jusque-là, n'existaient pas, n'étaient pas représentées, et campaient aux portes de la cité, comme on a dit à l'époque, parce que la démocratie restreinte et l'égoïsme des classes conservatrices, qui étaient les grands propriétaires traditionnels, ne voyaient pas le problème. Ne voyait pas le problème. Or, le problème était là, et le péronisme est né de là. Le péronisme, c'est une dictature, si on veut, qui a des origines qui sont démocratiques, et surtout, qui est l'introductrice d'un État social dans un pays qui en était totalement dépourvu. Par exemple, il y a des lois sociales. La loi qui a été la plus révolutionnaire qu'a introduit Perron, ça a été le statut de l'ouvrier agricole. Les ouvriers agricoles n'avaient ni convention collective, bien sûr, ni congé, ni durée de la semaine de travail. Et tout ça, c'est Perron qui l'a donné. Et vous ne voulez pas, après, que Perron soit une idole pour tous ces gens qui, à partir de là... vous savez que les propriétaires des grandes propriétés et des petites aussi ont réagi en disant « Mais c'est une violation de la propriété privée. On intervient là où je suis le seul maître après Dieu. » Et ça, ça reste. Ça, ça reste. Alors après, il y a toute la mythologie sur le rôle d'Eva, Eva qui faisait le culte de Perron, puis Perron qui a fait le culte d'Eva, les slogans intraduisibles, vous voyez, c'était « Perron cumple, Eva dignifica », c'est « Perron tient ses promesses et Eva les... »
Magnifique.
Bon, les magnifiques, mais enfin, non, ça prend beaucoup de sens. En français, c'est incompréhensible, mais... On utilise toujours ça. D'où le mythe d'Eva, qui était une sainte, etc. En fait, Eva avait une fondation qui racketait pour aider les pauvres. Alors, il y avait les syndicats qui avaient leurs œuvres sociales, c'est-à-dire sécurité sociale, etc., les salariés. Et ceux qui n'étaient pas salariés, les pauvres, c'était Eva qui les aidait en racketant un peu les entreprises, un peu les syndicats, un peu tout le monde. Eh bien, elle apparaissait comme une sainte. Puis la mise en scène était remarquable.
Oui, c'est la redistribution plus les folies bergères. Nicole Nisotto.
Oui, je voudrais revenir sur la diversité politique. Et vous avez bien montré qu'il y a des Amériques latines et que le concept d'Amérique latine, c'est un concept facile, mais qui ne correspond pas totalement à la réalité. Mais malgré tout, il y a en Amérique latine, il y a eu en tout cas, une volonté d'intégration régionale qui a été très forte, qui demeure, et qui a été beaucoup plus forte en Amérique latine que sur d'autres continents. Et même pour l'Union européenne, l'Amérique latine, c'était le bon exemple de l'intégration régionale. C'était à la fois un partenaire commercial important, mais ça avait surtout une valeur exemplaire de montrer que l'intégration régionale, économique, peut-être porteuse un jour d'intégration politique comme en Europe, pouvait se développer dans d'autres continents que l'Europe. Et notamment le Mercosur a été et est toujours pour l'Union européenne un partenaire commercial très important. Je crois que le Mercosur fait quand même 80% du PIB de l'Amérique latine. La question est, quel est l'avenir de cette intégration régionale? Est-ce que c'est toujours porteur d'une espèce de volonté de rapprochement politique entre les pays? Et deuxièmement, est-ce que la volonté de M. Trump de casser la partie sud de l'ALENA, ou en tout cas de renégocier fortement avec le Mexique l'intégration entre les deux Amériques, est-ce que ça, ce n'est pas une menace qui pourrait amener les autres pays de l'Amérique latine à se rapprocher, à s'unir entre eux, à renforcer leur intégration régionale contre l'incertitude américaine?
Alain Rouquier.
Bien, d'abord, les Européens ont cru que leur modèle allait avoir plein succès dans des pays qui sont très européens, finalement. Et le Mercosur était apparemment le bon élève parce que c'était des pays puissants. Alors, le Paraguay et l'Uruguay, ils sont des petits pays, mais il y avait l'Argentine et le Brésil, et on pensait que ça devait avancer, et puis ça devait avancer jusqu'à avoir un accord Union européenne-Mercosur. Ça fait 20 ans qu'on en parle. On n'y est toujours pas. Quant au modèle européen, le Mercosur n'en a pas voulu. Vous savez que il suffit que vous parliez de Bruxelles, et c'est pire que Front National en Amérique du Sud. On vous dit, ah, oh, cette administration envahissante, ah, Bruxelles, quelle horreur, etc. Et donc, le Mercosur n'a jamais eu la moindre administration. Il y a des secrétariats volants, il y a des rencontres, il y a des sommets, etc. Et tout se décide, donc rien ne se décide. Et ensuite, il y a eu un certain nombre de régressions où l'Argentine, par exemple, a considéré que l'industrie brésilienne était trop puissante. Et donc, ça a concurrencé dangereusement sa propre industrie. Donc, on a rétabli ce qu'on n'a pas appelé de manière douanière. Mais enfin, on a rétabli, comme Trump appelle ça, des taxes de compensation, juste comme ça. Donc, le Mercosur n'a pas avancé. Le Mercosur a reculé. Alors après, quand on y a introduit, pour des raisons idéologiques, le Venezuela, qui n'avait rien à voir avec le Mercosur, on lui a donné une orientation politique qui ne faisait pas l'unanimité partout. Il y a eu un moment où il y a eu un certain nombre de gouvernements qui trouvaient que le Venezuela, bon, c'était pas mal que même s'il était un peu tapageur avec Monsieur Chavez, c'était pas mal peut-être pour le calmer qu'il entre dans le Mercosur. Mais il n'avait rien à apporter au Mercosur. Sauf qu'il a essayé d'utiliser le Mercosur avec une télévision du Mercosur, avec une radio du Mercosur, à ses fins idéologiques. Et puis, il a aidé un petit peu certains processus électoraux avec la manne pétrolière. Hein. C'était pas très bon non plus. Donc, le Mercosur n'est pas allé de l'avant. Alors, il y a un autre Mercosur dont on n'a jamais parlé, dont on ne parle pas. C'est dans le domaine intellectuel et le domaine universitaire. Il y a des échanges entre universités, entre le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay notamment, comme jamais auparavant. Jamais. C'est-à-dire qu'un professeur brésilien peut aller enseigner à Buenos Aires ou enseigner à Montevideo, et ça, autrefois, c'était pas possible. Aujourd'hui, c'est possible, et c'est très bon. Est-ce que ça va faire avancer le Mercosur? Non, parce que apparemment les intérêts ne coïncident pas toujours, et même souvent ils sont antagoniques, et les choses ne se présentent pas de la meilleure façon possible. Alors, évidemment, le Brésil a toujours considéré qu'il avait un rôle fédérateur, mais le Brésil a tenté de faire des fédérations qui lui convenaient. Les fédérations qui lui convenaient, c'est l'Union des Nations d'Amérique du Sud, l'UNASUR, ça n'a rien d'économique. C'est politique, en matière de défense, pour essayer d'homogénéiser les productions militaires, d'homogénéiser aussi les doctrines. Et puis, c'est politique. Mais ça n'est pas économique. Ce qui intéressait le Brésil, c'était d'avoir un débouché pacifique, finalement. Hein? Le grand projet de l'UNASUR, c'est le projet d'infrastructure de l'Amérique du Sud, qui est en cours, d'ailleurs, construire des routes, construire des canaux, avoir des accords aériens qui permettent surtout aux produits brésiliens de passer de l'Atlantique au Pacifique. Et ça, c'est peut-être l'avenir de l'intégration. L'intégration physique. Sans intégration physique, à quoi sert l'intégration ?
Béatrice Giblin.
Oui, moi je voudrais vous on n'a pas du tout parlé du Mexique et le temps passe et je pense que c'est un pays qui est dans un état, qui est dans une situation aujourd'hui sur le plan économique avec un certain nombre de difficultés, un gros problème intérieur qui est celui quand même des narcotrafiquants avec un niveau j'allais dire de corruption possible compte tenu des masses financières dont ils disposent, un assez haut niveau de la police et peut-être plus largement dans l'État, la position de Trump vis-à-vis du Mexique. Comment vous pourriez nous présenter la situation mexicaine aujourd'hui dans ses fragilités, mais aussi peut-être ses éléments de force?
Alors, je vais commencer par les fragilités. Le Mexique est un État nord-américain. Il faut commencer par la géographie.
Bien sûr.
C'est un État latino-américain, mais avant tout un État nord-américain. C'est pas pour rien qu'il a perdu la moitié de son territoire en 1848. Et il exporte essentiellement aux États-Unis. Et je vais m'écrire quelque part, je me permets de citer que la véritable constitution du Mexique, c'était l'ALENA. Lorsque le président Salinas a fait ce choix, réfléchi d'ailleurs, puisqu'il a fait une tournée en Europe, il dit l'Europe s'occupe d'elle-même, c'est pas un marché pour nous, et puis c'est plus facile de vendre au Nord, mais il faut que ce soit garanti. La garantie que les produits mexicains pourraient entrer aux États-Unis et qu'il n'y aurait pas de régression, qu'il n'y aurait pas de barrière, qu'on n'arrêterait pas, qu'il n'y aurait pas des changements de politique, ça a été l'ALENA. Et ça a permis de sauver beaucoup d'entreprises nord-américaines qui sont venues faire une partie de leur production dans ces chaînes de valeur, etc., sur lesquelles Trump est en train de revenir et est en train de massacrer les entreprises multinationales américaines parce qu'elles ont besoin des coûts très bas de production du Mexique. Mais ALENA, ça signifie ce que je dis là. Le différentiel qui permet au Mexique d'être un grand pays industriel aujourd'hui, d'exportation industrielle, c'est le pays le plus industrialisé d'Amérique latine. C'est les bas coûts de production, donc la pesée sur les salaires. Si les salaires montent, les avantages comparatifs du Mexique par rapport à des pays plus lointains où les coûts de transport sont élevés, disparaîtront. Là, on a un premier problème, car le Mexique n'est pas un pays exportateur comme l'Amérique du Sud, de produits primaires, de matières premières. Le Mexique est aussi un pays industriel. Vous disiez un de mes amis, industriel français au Mexique, il dit ici, pour le prix d'un Vietnamien, vous avez un ouvrier italien. Non, mais c'est peut-être pas très, très gentil de dire des choses pareilles, mais...
C'est parlant.
C'est une citation. Oui. C'est pas de moi, c'est une citation. C'est cynique. C'est cynique, mais bon. Et les investisseurs américains le savent. Peut-être M. Trump ne le sait-il pas, mais les investisseurs américains le savent. Et ça a fonctionné pendant un certain temps. Là, c'est le premier problème. Deuxième problème, cet immense marché, c'est un immense marché pour tout. Et notamment pour les stupéfiants. Mais les clients sont aux États-Unis. L'argent est aux États-Unis et les armes sont aux États-Unis aussi. Ces armes qu'on vend assez librement aux États-Unis, elles entrent au Mexique et ça donne ces massacres, ces guerres de clans, de sous-clans, de Sinaloa, de Tamaulipas, etc., qui rendent extrêmement difficile le fonctionnement de la démocratie. Depuis 2000, le Mexique est une démocratie, avec pluralisme, avec alternance, oui, mais... l'héritage de révolutionnaires, disons entre guillemets, du parti révolutionnaire institutionnel, que j'appelle parti des institutions révolutionnaires, ce qui me semble plus exact, cet héritage est lourd. Et il est lourd d'autant plus que jusqu'à une date récente, jusqu'en 2000 disons, tout était centralisé. Vous savez que ce que disait un écrivain latino-américain, il disait le Mexique, c'est la dictature parfaite. Et puisqu'il y a des élections régulièrement, il y a plusieurs partis, mais c'est toujours le même qui gouverne. Eh bien, ce centralisme permettait de taper sur les doigts de quelques gouverneurs ou de quelques maires qui ne se comportaient pas bien. Et il y avait une stabilité, une très faible violence. Le narcotrafic était ordonné, il était contrôlé, ça marchait. À partir du moment où il y a eu la démocratie, le centre, le pouvoir central, a été remplacé par le pouvoir des gouverneurs, par le pouvoir des maires, par des pouvoirs locaux. Et là, l'infiltration de la délinquance et l'infiltration du narcotrafic a été terrible. A été terrible, et c'est ce qui se passe maintenant. Que le gouvernement central n'a plus les moyens de faire la loi. Et vous voyez, dans Tamaulipas, dans le Guerrero, toutes ces affaires de massacres dans lesquelles les polices locales ont trempé. Et ça, c'est un très très gros problème pour la démocratie et pour le Mexique, et pour sa capacité de négocier avec les États-Unis.
François Bujon de l'Étang.
170 000 morts en 2016. Alors, puisque nous sommes remontés vers le nord, nous allons continue encore un peu plus et une portée aux États-Unis. Je voudrais avoir votre avis sur l'ombre portée des États-Unis sur l'Amérique latine aujourd'hui, parce que historiquement et pendant des décennies et des décennies, cette ombre portée a été tout à fait gigantesque. Mmh. Elle a même été codifiée au fond et elle a été mise en œuvre. La doctrine de Monroe, c'est quelque chose qui est resté très très vivant presque jusqu'aux années 60 finalement. Pendant un siècle et demi, la doctrine de Monroe a été appliquée, promulguée. Et il en reste bien quelque chose. Les Américains, à la faveur de la guerre froide, ont soutenu les régimes militaires, par exemple, parce qu'elles leur permettaient d'intervenir et d'avoir des préférences. Aujourd'hui, tout cela a un peu disparu avec la fin de la guerre froide, avec les régimes militaires, mais l'ombre portée des États-Unis reste. Elle se manifeste de façon différente, me semble-t-il. Et je voulais avoir votre avis, vu d'Amérique latine. Comment est l'image des États-Unis d'Amérique? Comment les élites latino-américaines aujourd'hui se positionnent-elles par rapport au modèle américain? Envoient-elles encore leurs enfants faire des études en Europe ou les envoient-elles tous sur les campus de Californie?
Alain Rouquier.
Malheureusement, on les envoie tous sur les campus, non pas nécessairement de Californie, mais de la côte Est, si possible. Et on voit ça à travers la classe politique. La classe politique mexicaine est intégralement formée aux États-Unis. Ils ont tous un diplôme de Princeton, Harvard, les grandes universités. Et c'est le cas de beaucoup de ministres des Finances, la plupart des pays. Il y a même le cas d'un ministre des Finances qui a été un banquier nord-américain. Et le cas même d'un président de la République au Pérou qui a été un banquier nord-américain. Donc, c'est pas tout à fait comme autrefois. C'est pas à travers les militaires, à travers des pressions pour renverser un régime. D'ailleurs, regardez, dans les dernières années, après 2013, avec Maduro, les États-Unis ont été relativement prudent et modéré vis-à-vis du Venezuela. Autrefois,
pourtant, Maduro autrefois, les utilise encore comme repoussoir.
Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Tous les États bolivariens dénoncent l'impérialisme. Mmh. Ils ont raison, ça fait partie de leur arsenal. C'est pas... Non, mais il faut bien comprendre que les États-Unis se comportent toujours de la même façon en Amérique latine. Lorsque Evo Morales a été élu, l'ambassadeur des États-Unis a dit « il ne prendra pas le pouvoir ». Car c'est un narcotrafiquant, parce que c'était un producteur de coca à des fins médicales, folkloriques, etc., parce que ça fait partie de la vie nationale en Bolivie. Et évidemment, ça ne crée pas des liens très positifs. Hein. Et lorsqu'il y a eu un coup d'État en 2002 contre Chavez, aussitôt, ils ont reconnu les autorités illégitimes. Il n'y a que deux pays qu'ils ont reconnus, les États-Unis et l'Espagne. L'Espagne, M. Aznar, c'est reconnu, ce qui fait qu'ils ne sont pas très bien vus maintenant au Venezuela. Donc,
il y a aussi l'épisode entre l'Espagne et Chavez.
les États-Unis ont toujours une grande influence à travers donc la formation, l'éducation, à travers des personnalités, à travers un goût pour l'intervention, un goût des ambassadeurs qui se présentent un peu ou se comportent comme des vice-rois,
des proconsuls,
des proconsuls, mais c'est plus tout à fait la même chose. Sauf que il y a deux Amérique latine. Il y a l'Amérique latine où il y a un pays qui est aujourd'hui très 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 puissant et qui n'est pas l'Amérique du Nord et qui est un pays communiste. La Chine est le premier partenaire commercial du Brésil. La Chine est le premier partenaire commercial du Pérou. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Argentine et le deuxième partenaire de toute l'Amérique du Sud. Oui. Si vous allez même au Mexique, vous voyez qu'il y a énormément de produits qui viennent de Chine. Donc là, on a l'impression que les États-Unis n'ont pas réagi en disant « mais comment on a une nouvelle métropole là, qui veut se substituer à nous ?» Ça n'a pas été le cas. Ceci dit, il y a le problème des entreprises nord-américaines qui produisent en Amérique centrale, dans les Caraïbes et au Mexique. Et le problème essentiel pour M. Trump de faire revenir les emplois aux États-Unis mettant fin au type de production avec plusieurs étapes, dont une dans l'Amérique latine proche des États-Unis. Et là, moi je pense que c'est très très grave pour le Mexique. Ils ont accepté la renégociation de l'ANA. Mais quand on sait comment ça se passe aux États-Unis, quand on présente un projet ou quand on signe un accord, il faut que le Sénat le vote.
Et oui.
Alors que le Sénat le vote au Mexique, c'est très facile. Mais que le Sénat le vote, les États-Unis s'il n'y a pas le fast track, etc., ça va être très difficile. Et s'il n'y a pas l'ALENA, comment ça va se passer pour les entreprises américaines qui sont au Mexique? Est-ce que les États-Unis et les autres, nous aussi, dans le domaine aéronautique par exemple, avec le pôle de Querétaro, il y a beaucoup d'entreprises françaises, vont investir au Mexique? Là, il y a un gros risque. Alors, peut-être M. Trump va changer de pied, va changer d'idée, va changer de d'orientation. Mais il voulait d'abord, il a déjà reculé puisqu'il voulait, il voulait sortir de l'ALENA. Il y a aussi autre chose pour certain nombre de ces pays, pour trois d'entre eux notamment, c'est le Trans-Pacific Partnership, le TPP.
Oui, bien sûr.
L'Alliance du Pacifique, le Mexique, la Colombie, le Chili, étaient très attachés. C'était les trois latino-américains des 12 pays qui... Et maintenant, il y avait une possibilité pour eux d'exporter plus vers l'Asie, hors Chine, qui a disparu. Donc, cette politique de Trump, elle frappe directement les intérêts d'un certain nombre de pays, notamment les pays de la côte pacifique. Et pour le Mexique, sauf s'il y a un changement, c'est pas le mur. Le mur, c'est du symbole. Ça ne dit pas grand-chose. C'est irritant, c'est insultant pour le Mexique. Oui, enfin, les Mexicains ont l'habitude d'avaler les couleuvres venant des États-Unis. C'est pas grave, mais la remise en question de la libre entrée des produits mexicains aux États-Unis, ça c'est grave.
Juste un mot, puisque malheureusement il ne nous reste qu'une minute, mais on a fait allusion, vous avez fait allusion, j'en avais parlé dans mon introduction, à l'importance que la Chine prend dans les échanges. Est-ce que vous diriez qu'il y a aussi une diplomatie chinoise à destination de l'Amérique latine?
Bien sûr qu'il y a une diplomatie chinoise. C'est pas simplement que la Chine a été un client avide des productions minières notamment et des productions agricoles latino-américaines, c'est que ça va beaucoup plus loin. Il y a au moins deux pays qui arrivent à boucler leur fin de mois grâce à la Chine. Le Venezuela et l'Équateur. L'Équateur est une situation extraordinaire. L'Équateur a abandonné sa monnaie, qui était le sucre, et a adopté le dollar. Ils ont d'une part le dollar et d'autre part... Ils ont vendu par anticipation leur production pétrolière à la Chine. C'est-à-dire qu'ils vivent en tirant des traites sur la Chine. Et Venezuela, c'est un peu la même chose. Sauf qu'eux, ils ont toujours le bolivar, ils n'ont pas adopté le dollar. Mais non, la Chine est très très présente en Amérique du Sud.
Oui, l'Équateur est par rapport à la Chine, dans une situation digne d'un roman de Balzac. Alain Rouquier, je vous remercie de nous avoir éclairé sur ce sous-continent, et même un peu plus que le sous-continent, puisque nous sommes remontés jusque au Mexique. C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer, réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathilde Cadreau, avec aujourd'hui la technique Pascal Bénard. La semaine prochaine, nous poursuivrons le cycle de nos émissions thématiques et j'espère bien avoir l'occasion de vous y accueillir.